C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle du YouTube Game et d'aventure. Et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjan Chélil. Bonjour Adjan.
Yes, le plus montagnard du Super Daily.
Ouais, mais j'ai pas fait le Mont Blanc. Tu vois, j'ai fait le tour du Mont Blanc, j'ai pas fait le Mont Blanc. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai qu'en même temps, il faut quand même déjà un petit niveau d'alpinisme hein, pour aller faire le. Le Mont Blanc, ça reste touristique quand même, hein,
faut pas lâcher ce mot-là quand même, c'est le Mont Blanc. Hein.
Ça reste costaud, faut monter à 4000 mètres.
Mais en tout cas, j'ai pas fait l'Everest comme Inoxtag ce matin, les amis. On fait un petit tour d'horizon de cette tendance de fond. Hein. Les youtubeurs sont tous en train de se transformer en aventuriers ou presque. Il est loin le temps des youtubeurs qui se filment dans leur chambre d'enfant, balancent des blagues potaches en face cam. Ça, c'est finito, les amis.
Non, effectivement, on avait déjà parlé quand on avait parlé aussi du documentaire de Squeezie et du fait que le contenu changeait petit à petit, que les youtubeurs sortaient dehors pour aller faire du contenu. Bah là, ils sortent carrément loin dehors puisque Inoxtag est parti il y a quelques jours là, grimper l'Everest et nous ramener des belles images et a priori un big doc dessus. On va en parler ce matin. Mais ils sont nombreux hein, dans le sillage de Inoxtag, de Seb Lafrit aussi, à aller filmer leurs aventures. On voit de plus en plus de contenu créé sur la plateforme YouTube qui tourne autour de ces sujets-là, de l'aventure, du survivor aussi un petit peu. C'est assez intéressant parce que en fait, c'est pas des aventuriers qui créent du contenu pour Internet, c'est des purs YouTubeurs, des purs créateurs de contenu, players de plateformes YouTube, Twitch, etc., qui se mettent à créer des contenu. Arcs narratifs et créer du contenu autour de l'aventure. Ouais, et ça, c'est assez intéressant.
Et c'est vrai qu'en trame de fond, hein, on va le voir en parcourant ces quelques cas d'école. Hein. Désormais, les YouTubeurs sont des studios de prod à part entière redéfinissent effectivement, comme tu dis, les contours de ce que c'est le divertissement avec aujourd'hui un ingrédient un peu majeur hein, depuis, on va dire, 2 ans, c'est l'aventure. Évidemment, comment ne pas parler d'Inoxtag, Inoxtag qui a décidé de partir à l'assaut de l'Everest, Inoxcad qui emporte avec lui du coup c'est 7,5 millions d'abonnés YouTube dans une aventure qu'il tisse d'une main de maître depuis maintenant presque une année. Hein.
Ouais, bon gré mal gré, c'est devenu le leader des créateurs de contenu YouTube un peu avec Seb Lafrit, pas très loin. Mais Inoxtag, effectivement, il fait le pari il y a un an comme ça, sorti de nulle part, de balancer à sa communauté sur YouTube qu'il va partir grimper l'Everest. C'est son objectif, il se donne un an et quelques pour pouvoir y arriver. À l'époque, personne n'y croit, tout le monde se fout de sa gueule. Donc déjà, il y a toute une stratégie, je trouve aussi intéressante, de clivage autour de l'annonce et du défi énorme qui se dresse devant lui, puisque beaucoup sont là, oui, et encore il y a quelques semaines, hein, disaient, ça va être un joli fond vert, avec du beau matos, etc. Mais non, Inoxtag, il s'est donné hein, pendant un an, il a surtout raconté tout ça dans du contenu, donc ça lui a amené un arc narratif et un nombre de vidéos autour de ce sujet de l'alpinisme, de l'aventure, mais aussi donc tout simplement du dépassement de soi, qui est assez intéressant et qui lui a rapporté des sacrés stats, hein, puisque ça se compte en millions de vues à chaque fois maintenant, ces vidéos. Il a monté le Mont Blanc, il a monté le Mont Cervin en Suisse, il a fait le GR20 en 7 jours au lieu de 15 en Corse. Donc on l'a suivi, lui et son coach, pendant des mois et des mois. Et en fait, on a suivi tout son entraînement, ce qui nous donne envie encore plus aujourd'hui. Bien sûr, tout ça, c'est presque que du teasing pour justement le moment où il va sortir son doc quand il rentrera de l'Everest.
Et donc le voilà parti dans une expédition de 2 mois avec pour objectif donc le plus haut sommet du monde, hein, promesse simple si je puis dire. Et du coup Inoxtag se lance quand même là dans, et moi c'est peut-être ce qui m'impressionne le plus, dans une surproduction vraiment, et on est à la hauteur des plus belles prods documentaires parce qu'on a eu déjà pas mal de coulisses sur l'équipe, sur comment les choses allaient s'organiser pour lui, puisqu'il y va pour faire un exploit individuel, sportif, mais aussi pour produire du contenu. Et ça, c'est la clé. On sait déjà qu'il va y avoir un documentaire qui dépassera l'heure de prod, peut-être plus. Hein. Certains même annonçaient 2 heures, 3 heures.
Alors lui, il a annoncé sur une chaîne Twitch d'Amine Mathieu, notamment, pas loin de 3, il espère pas loin de 3 heures de documentaire Effectivement.
Et donc c'est le point de départ, c'est pour aller raconter cette histoire. Hein. Et attention, Inextag du coup n'y va pas seul évidemment. Il aura avec lui une équipe de 7 personnes, ça c'est lui qui nous l'a expliqué. Donc dont une bonne partie a vocation à produire des contenus avec des dronistes, des caméramans, etc., etc. Le projet d'Inox, c'est quasiment une super production. Ouais. Vraiment, lui-même, il a annoncé un budget global. Alors, il s'est arrêté à dire un budget à 7 chiffres, mais Libération, je vous mets un lien en note de cet épisode, a fait un petit calcul et ils estiment que ce projet aurait une valeur, aurait nécessiterait 1,5 million d'euros pour se réaliser. Donc, je sais pas si on se rend bien compte.
Ça serait pas si étonnant. Hein. Il est accompagné de pas mal de marques hein, différentes. Il y a Nike qui l'accompagne, il y a Deezer, je crois aussi. Donc, il y a des grosses marques qui sont venues accompagner ce voyage. Quand on parle de la production, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas si facile hein, d'aller produire un documentaire sur grimper l'Everest. Il y en a beaucoup qui le feraient déjà parce qu'il faut trouver quand même déjà des mecs qui sont prêts à monter
avec une caméra.
Avec une caméra. Donc par exemple, moi j'ai entendu parler du drone. Effectivement, ça pourrait donner des super belles images, mais il ne sait absolument pas si ils vont réussir à tourner avec le drone là-haut, à ramener le drone vivant aussi parce que avec le vent qu'il y a au sommet de l'Everest, les histoires de pression qui sont pas les mêmes. Etc.
Bien sûr.
Ce sera peut-être pas si facile de ramener des belles images de drones.
Et évidemment, une grosse partie de ce projet, bah, vous l'aurez compris, est financée par des marques, voilà, qui vont, on imagine, se faire habilement placer pendant ce documentaire hein, de 3 heures. Allez, Nike, Fitness Park, Air Up, les produits laitiers, Herborian, tout ça sponsorise donc, tout ce beau monde sponsorise donc ce nouveau documentaire d'Inoxtag. À noter, et ça, pareil, c'est intéressant, on a déjà, alors quand même, les images ne sont pas encore tournées, on a déjà. Une vue assez précise de où sera diffusé ce documentaire. Un Inoxtag qui est très transparent. D'ailleurs, j'aime bien le style de ce gars. Il en a un peu rien à branler. Il balance les trucs. Eh bien, le docu ne sera pas, disponible sur les plateformes de streaming type Prime ou Netflix. Hein.
C'est assez intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il devait avoir des négociations ou des offres. En tout cas, c'est ce qu'il raconte avec ce type de plateforme. Et on voit bien que bah, un Squeezie, un Orelsan, ils se sont tournés plutôt vers Prime pour pouvoir financer et diffuser leur contenu. Lui, il a construit toute sa communauté sur YouTube, Inoxtag. Et donc, il dit, alors je sais pas si c'est la seule raison, mais en tout cas, c'est la raison officielle de son choix. Il dit, bah voilà, moi, tous mes fans, ils m'ont aidé à arriver jusque là grâce à YouTube et à ce qu'ils ont fait de moi sur YouTube, donc je veux absolument poster mon documentaire sur YouTube. Par contre, il a prévenu les gars, accrochez-vous, il y aura des pubs partout quoi.
Ouais, bah forcément, faut financer tout ça, faut faire des ronds. Allez, avec son projet Everest, moi ce que je trouve hallucinant, c'est comment Inoxtag est passé à un niveau supérieur immédiatement. Ouais. Parce que depuis l'annonce de sa future ascension, eh bien on l'a vu petit à petit devenir mainstream Inoxtag.
Il a basculé dans le grand public.
Il était déjà, je veux dire, on parle d'un mec qui a 7,5 millions d'abonnés YouTube, donc on va pas dire que c'est un inconnu, mais vraiment, il est passé dans le registre des noms propres communs, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Même ma maman, je pense, maintenant a entendu parler d'Inoxtag. Il y a eu des milliers d'articles de presse hein, sur cette aventure-là, des passages dans à peu près tous les médias digitaux, les Combini, les Brut, voilà, pour parler de cette aventure. Et je suis allé jeter un petit coup d'œil du côté de Google Trends en me disant, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en matière de requêtes, de nombre de fois où les gens ont recherché Inoxtag dans le moteur de recherche, ce qui pour moi est un bon signe d'élargissement de l'audience grand public. Ben c'est impressionnant parce qu'au cours des 3 derniers mois, le volume de recherche pour Inoxtag a été multiplié par 9. Donc on voit bien l'impact aussi que peut avoir ce genre de super production sur le sur une carrière et puis sur la marque Inoxtag. Hein.
Ouais, parce que Inoxtag, juste avant ça, ça reste sans être péjoratif du tout, un gamin qui stream, qui joue aux jeux vidéo, qui se filme dans sa chambre et qui crée du contenu YouTube, qui commence juste avant cet arc-là sur l'aventure, qui commence juste à créer du contenu un petit peu hors les murs, avec des concepts YouTube un peu plus forts, etc. Mais sinon, il fait surtout du stream et il est très proche de Michou, donc les deux créent beaucoup de contenu ensemble, mais il était loin de ce qu'il est aujourd'hui.
Allez, autre exemple.
C'est
autre exemple. Bah oui, comment ne pas parler aventure sans parler de Seb Lafrite, hein, le youtubeur qui enchaîne les aventures extrêmes. Seb Lafrite, @SebFrite sur YouTube. C'est quoi? C'est 5,5 millions d'abonnés, me semble-t-il. C'est déjà énorme.
C'est déjà énorme. C'est un style complètement différent d'Inox Tag. Ça, c'est assez intéressant, je trouve, dans la tonalité, la manière dont il le fait. C'est vraiment très différent. Inox Tag, c'est une pile électrique qui gratte un peu, qui est un peu.
C'est la next gen aussi. Ouais, il y a une différence de génération.
Exactement, il y a une différence de génération. Il est nature peinture, Inox Tag. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il raconte
des
conneries.
Et il dit frère à peu près toutes les deux secondes.
Voilà, donc ça peut vite être agaçant aussi, mais en tout cas, c'est deux générations complètement différentes parce que lui, Seb Lafrite, il est beaucoup plus humble, beaucoup plus calme. Il y a tout un sujet à travers ses dogs d'aventure qui sont autour de l'introspection plutôt. C'est de cet ordre-là. Très premier degré, tu vois, dans la manière d'aborder les choses. Et lui, il a commencé avec un doc qui se passe en Papouasie où il part en exploration dans la jungle avec une équipe de scientifiques qui doit aller rechercher certaines espèces d'animaux, etc.
Donc là, on est en 2020. Hein.
Ouais, c'est vraiment il y a un narratif qui est complètement différent. On n'est pas tellement sur l'exploit sportif ou le dépassement de... Il y a un côté dépassement de soi, mais dans un but un peu collectif de recherche.
Juste pour ce documentaire, ouais. Il a été diffusé sur TFX, donc en télé, en prime à l'époque, et parallèlement aussi sur YouTube. Sur YouTube, le docu, il a fait 6 millions de vues quand même, donc c'est costaud.
Derrière, il a remis le couvert, je crois, 2-3 ans...
En 2023, ouais.
3 ans plus tard, c'est ça, avec le Kyrgyzstan.
Voilà. Moi, je n'avais jamais entendu parler du Kyrgyzstan avant que Seb Lafrite n'y aille.
Ouais.
Petit pays d'Asie centrale situé entre la Russie et la Chine, pour faire...
À peu près, dans tous les... Là où vous avez une concentration de pays en stand à la fin... C'est à peu près à ce niveau-là que ça se situe. Mais intéressant, un autre mode, parce que là, par rapport à la jungle, visuellement, c'est très différent. En tout cas, à chaque fois, c'est des très belles images, c'est très léché comme documentaire. Seb Lafrite, on est sur des documentaires vraiment de qualité télé. C'est ce que tu disais, c'est pas étonnant. Inox Tag, pareil, c'est un peu plus filmé, caméra au point, etc. Là, du côté de Seb Lafrite, c'est
extrêmement léché.
Prod.
Déjà, le docu dure 45 minutes. Donc c'est pas rien et c'est une grosse prod. Effectivement, dire que ça serait du YouTube, ça serait réducteur parce que on est pour moi assez proche d'une production de type National Geographic. C'est vraiment très très bien produit.
Je pense que c'est l'inspi.
Ouais, j'imagine. Et là aussi, l'expédition, elle a été très largement financée par des partenariats de marque. Le vieux campeur, c'est notamment positionné fournisseur, on va dire, matos du projet de Seb Lafrite. Ce qui leur a permis de diffuser leur propre contenu aussi, de marque. Voilà, je suis retombé sur des vidéos du vieux campeur diffusé en 2023 dans lesquelles ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont fourni à Seb Lafrite et comment l'intérêt de ces produits-là. Donc, intéressant, win-win, on va dire.
Bah, oui.
Et puis, plus globalement, chaque partenaire y est allé de sa petite campagne RP de relations presse, évidemment, comme Sennheiser par exemple, un Sennheiser qui fait donc les micros qu'utilise Seb Lafrite sur ses documentaires, qui a elle aussi tâché de générer un certain nombre de retombées presse assez cool qu'ils ont eu. Donc on voit aussi que pour les marques, il y a maintenant en plus de l'affichage au cœur des vidéos et du positionnement de produits, il y a aussi une opportunité sur ces gigaprod à derrière faire du RP et du earned media.
Bien sûr, c'est une caisse de résonance pour ces marques-là qui est intéressante et qui permet d'aller toucher plus du grand public. Sur Seb Lafrite, il y a aussi un angle dans ses contenus, puisque là, il vient de faire des contenus avec Mike Horn, notamment, où Mike Horn est dans une expédition de plusieurs mois, où en gros, il repasse par tous les endroits où il est passé en bateau pour regarder l'état de la banquise et à quel point est-ce que la banquise s'est réduite par rapport à il y a quelques années en arrière où il est passé par là.
Donc là, nouveau docu qui vient de sortir en janvier.
Ça vient de sortir.
À nouveau, 45 minutes. Ça s'appelle Le Mental, Seb Fit Mike Horn.
Là, c'est plus sur le dépassement de soi que les deux d'avant. Mais il y a quelque chose, je trouve, que lui développe aussi, qui est assez intéressant entre surtout le Kyrgyzstan et là, son exposition avec Mike Horn. C'est la préservation de la planète, l'écologie. On sent que c'est aussi central dans la création de contenu de Seb Lafrite.
Oui, exactement. Alors voilà, documentaire réalisé par sa propre boîte de prod, ouais. Parce que je vous le disais en intro, il est loin le temps des youtubeurs facecam à petit matos. Non, Seb Lafrite a créé sa boîte de prod, ça s'appelle Olibrius, et c'est une boîte qui produit donc ces documentaires-là, qui à un moment donné sont aussi calibrés en termes de format, à 43 minutes, on commence à être dans des formats proches des 52 minutes télé, donc qui potentiellement peuvent avoir une deuxième vie sur des chaînes du câble ou des chaînes de la TNT, voire peut-être même sur derrière des plateformes de streaming. Donc on le voit bien, la prod elle va au-delà d'une utilisation YouTube.
Et puis là c'est le croisement parfait hein, entre Seb Lafrite, pur YouTuber, vraiment le mec qui vient du game de YouTube à fond, et Mike Horn, l'expéditeur, l'aventurier par excellence.
Ultra mainstream.
Ouais, voilà. Donc là on est dans le croisement parfait entre ces deux mondes de YouTube et de l'aventure. Pour continuer à parler d'aventure, parce qu'il y a un régisseur qui nous a mis le couteau sous la gorge pour absolument parler de Hardest Geezer, qui est
régisseur, notre régisseur est franco-britannique, oui, ou britannico-français,
il y a un biais,
en
tout cas c'est un gars qui a décidé de remonter l'Afrique en courant, lui, donc véritable grosse aventure aussi pour le coup, et il a commencé en étant plutôt un tout petit compte pas extrêmement connu, à créer du contenu sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui il a 200 000 abonnés quasiment sur YouTube et 1,2 million de fans sur Instagram. Et en gros, son vrai nom, c'est Russ Cook. Et il remonte toute l'Afrique en courant, en créant du contenu dans chaque pays où il passe, dans chaque endroit où il passe. Il a aussi créé des... il a des engagements caritatifs dans les endroits, dans les pays où il passe, pour essayer de faire avancer des sujets sur le terrain. Et c'est vraiment là pour le coup, on voit que cet arc narratif de l'aventure, du dépassement de soi, du voyage aussi, parce que là il y a tout ce truc là de traverser toute l'Afrique dans plein de pays qu'on connaît peu, donc ça nous ramène des images et une connaissance qu'on n'a pas, fonctionne extrêmement bien en ce moment sur Internet, puisque on voit qu'un petit entre guillemets créateur de contenu comme lui a totalement explosé au fur et à mesure de son aventure.
Ouais, quelques chiffres quand même sur Russ Cook Explore, hein, puisque il semblerait qu'il ait réalisé la première traversée de l'Afrique en courant d'une traite entre du
la sud,
nord,
au
nord, hein, donc il est parti d'Afrique du Sud et il est arrivé en Tunisie. Il a traversé 16 pays, parcouru plus de 16 000 kilomètres, ce qui représente 385 marathons en 352 jours. Je vois pas comment c'est humainement
ouais,
possible.
C'est quasiment un marathon par jour.
Le mec court la nuit pour éviter les gros cagnards d'Afrique et tout. Ouais. Et là aussi, on le voit bien, ce projet, il a un côté gigantesque. Il lui a permis de récolter à peu près 1 million de livres quand même, sterling. Et surtout, c'est un projet qui... intègre aussi une équipe. Hein. C'est pas juste un YouTuber qui suit avec une GoPro. Là, il y a une équipe aussi qui vient produire des images. Donc, c'est le point de départ.
Et puis il y a des marques qui sont associées aussi à ce projet et qui ont permis de le financer, notamment Oka, hein, je pense, marque autour du running, qui a vu une belle opportunité aussi de se placer dans ce 300 triple marathon qu'il a pu faire.
Allez, si on parle d'aventure, eh ben moi j'aurais presque envie de parler de Koh-Lanta, ou en tout cas d'île perdue au milieu de nulle part avec des aventuriers.
Hyper intéressant, parce que alors Koh-Lanta et île perdue au milieu de nulle part, on voit qu'il y a de plus en plus de contenu comme ça qui pop déjà sur, YouTube.
C'est devenu un grand classique de YouTubeur. Hein. Ouais, je passe 3 jours sur une île perdue, mais nulle part.
C'est ça, exactement. Alors Inoxtag
l'avait déjà fait. Oui.
Y a notamment une vidéo un peu ratée mais drôle de Billy Rebeu des Terres avec Mastu et Maxime Biaggi qui font aussi ça. On survit sur une île déserte qui est à regarder parce que c'est assez marrant. Mais il y a surtout Amine Mathieu qui est un peu au cœur de tous ces contenus-là, qui a déjà organisé une première vidéo qui s'appelle « Qui sera le dernier à rester en vie sur l'île ». Et alors là il y a une flopée, il y a tous les youtubeurs et tous les twitchers qu'on connaît qui sont dans cette émission. C'est tout simplement une vingtaine de créateurs de contenu qui sont jetés sur une île sur laquelle ils doivent réaliser plein de défis pour arriver à survivre et à être le dernier survivant à la fin de la vidéo.
Bon, c'est Koh-Lanta quoi.
Ouais, c'est Koh-Lanta. Et
ils n'avaient pas les droits pour utiliser Koh-Lanta, mais en gros c'est ça.
C'est à peu près ça. Et ils ont en fait, à la suite de ça, ça a été un peu le teasing de l'autre émission qui arrive derrière, qui est Koh-Lanta RP, qui a été organisée par Amine, mais aussi en collaboration avec Lollipop Cake, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Et ils ont lancé ce qu'ils ont appelé Co-Survivor RP, donc un mélange entre Koh-Lanta, du surviving, etc.
Et ça, en fait, c'est assez amusant. Hein.
C'est drôle, ils ont intégré Koh-Lanta dans l'univers de GTA V ils ont monté deux équipes l'une en face de l'autre et ces deux équipes, donc en stream hein, sur Twitch en permanence, ils se rejoignaient le soir pour aller faire ça. Vous pouvez trouver sur YouTube.
Et ils font du roleplay.
C'est ça. Et vous pouvez trouver sur YouTube, il y a toutes les vidéos maintenant résumées de chaque épisode. De moments où ils sont allés en live jouer et il y avait deux équipes qui s'affrontaient. Dans ces deux équipes on retrouvait Kameto hein, qui est une star du stream, il y en a plein, il y a Terracid, il y a Inoxtag qui était là, il y a tout, il y a tous les Twitchers et Youtubers qu'on connaît.
Moi j'aimerais qu'on explique
là.
Si vous ne savez pas ce que c'est le roleplay, parce que ça c'est quand même très intéressant. De quoi il s'agit? Donc on est au cœur d'un jeu vidéo, chaque personnage chaque personne pilote un personnage et ils vivent des aventures en commun qui ressemblent à Koh-Lanta avec des défis,
mais
etc.
Dans GTA 5.
Mais dans GTA 5, ils ont tous de leur côté de l'écran chez eux un petit micro et ils peuvent parler en fait, faire
les
parler leur personnage.
Autres,
et en fait, c'est de la comédie, ni plus ni moins. Chacun fait roleplay, ça veut dire c'est un jeu de rôle hein, en fait. Et chacun joue un personnage dans le jeu vidéo et l'interprète avec un tempérament, avec et c'est très marrant à regarder. C'est vraiment un format très à part. Je pense qu'on trouve que qu'en format stream aujourd'hui.
Ah ouais.
Mais là encore une fois avec une base de fond qui est l'aventure quoi.
Mais je trouve ça hyper hyper drôle parce que ils ont poussé le concept des téléréalités aventure jusqu'au bout du bout en assumant le côté justement un peu écrit, c'est de l'improvisation, mais ils ont un personnage écrit justement avec le roleplay, etc. Au final, si on tire un peu le trait, c'est ce qu'on retrouve dans des alors peut-être pas chez Koh-Lanta directement, mais dans d'autres productions de télé-réalité qui ont cartonné ces 20 dernières années, c'est exactement la même chose. C'est on enferme des gens à un endroit, on leur donne un rôle à chacun.
On leur dit toi t'es le méchant, toi
voilà,
t'es le gentil,
toi t'es gentil, toi t'es le dragueur, toi t'es ci, et on leur met des défis et on fait en sorte que tout ce petit monde fasse du spectaculaire. Et ben c'est un peu la même chose, mais dans un jeu vidéo et en live sur Twitch. Donc je trouvais que c'était vraiment le summum de ce côté aventure avec tout Twitch et tout YouTube.
Bon,
ce qui est intéressant, juste pour conclure,
oui,
parce que on est en train de faire un épisode fleuve, oui, mais c'est intéressant, il se passe plein de choses à ce niveau-là, c'est que je trouve qu'il y a un paradoxe entre le contenu long et le snack content aujourd'hui, puisque on sait que 90% des plateformes sociales sont inondées de snack content, de contenu très très court, à très faible valeur ajoutée au final, où il faut absolument garder tout le monde connecté. On en a parlé quand on a fait l'épisode Sludge Content. Et en fait, là, dans ce sujet dont on parle ce matin sur l'aventure avec ses longs documentaires, voilà, Inoxtag, il parle de 3 heures de documentaire. Tu le disais, c'est Blafrit, c'est 50 minutes à chaque fois. C'est intéressant parce que on a des créateurs de contenu qui essayent de développer un contenu beaucoup plus long et on se rend compte que YouTube, peut-être avec Twitch un petit peu parce que dans un format différent de live, mais Twitch en fait partie, YouTube est peut-être la dernière plateforme sociale où on peut créer et poster du contenu long et que ce contenu fonctionne. Et on voit bien que dans la démarche des utilisateurs aujourd'hui encore, aller sur YouTube, c'est pas les mêmes déclics, c'est pas le même driver que ouvrir Instagram, ouvrir TikTok. On n'y va pas pour la même chose. Quand on va sur YouTube, on y va parce qu'on a du temps devant nous, peut-être pour la soirée, ça remplace une série, un film, on va se regarder des vidéos qui peuvent faire une heure et demie. On a ce temps là devant nous dans ces moments là
ouais. Allez, juste pour terminer ce long épisode, juste ma petite roco du moment, Charles Villa, pareil,
oui.
Un youtubeur, plutôt journaliste youtubeur,
oui.
Je vous recommande d'aller sur sa chaîne Charles Villa sur YouTube, c'est vraiment chambé. Et là, petit roco sur son documentaire qui est actuellement dispo sur Prime autour de Jérôme Jarre, j'ai failli dire Michel Jarre. Jérôme Jarre.
Sur Love Army.
Voilà, donc si vous ne connaissez pas Jérôme Jarre, vous allez découvrir un Viner de l'époque, une grande star à la française qui a cartonné sur le web et qui s'était lui aussi lancé dans des sujets d'aventure, d'humanitaire aussi.
Surtout humanitaire.
Voilà, donc docu un poil cringe, mais que je vous recommande fortement.
Eh ben écoutez, si vous avez aimé ce contenu long, hein, cet épisode long qu'on vient de vous proposer, si vous êtes d'humeur aventurière, si vous avez des recos à nous faire, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux, @supernatif sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, Twitter, TikTok, on est partout, n'hésitez surtout pas. Et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, mais vous pouvez aussi l'écouter tous les matins en live sur Twitch. On est là tous les matins à 9h et on discute avec vous en direct de l'enregistrement qu'on vient de faire. Donc n'hésitez surtout surtout pas à venir nous voir. Sinon, bah, partagez cet épisode de podcast à un ami. On est sûr que ça l'intéressera.
Allez, merci à vous tous. On vous embrasse. Très belle journée. Ciao,
ciao,
bye
ciao.
Bye.
Ciao.